Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette table ronde sur les vampires. Et donc, nous sommes plusieurs auteurs ici. Donc, j'ai le désavantage de présider et d'animer cette table ronde. Vous m'entendez ? Ça va ? Il ne faut pas trop que je bouge comme ça. Donc, les vampires, comme vous êtes peut-être, vous en êtes peut-être aperçus, reviennent un petit peu sur le devant de la scène depuis quelque temps par l'effet d'un certain livre qui a eu un succès que je ne rappellerai pas et des adaptations cinématographiques qui ont suivi. Ce qui fait que ça a généré ce qu'on appelle la bitlit, la littérature qui mord. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on parle des vampires, mais il faut le savoir que les vampires ont toujours existé. Ils ont toujours été dans l'imaginaire des hommes, sous des formes différentes. Alors je fais un petit topo rapide sur les vampires, puis après je ferai parler donc les différents intervenants ici présents. Mais juste un petit topo. Pour dire que les vampires, au départ, il s'agit d'un imaginaire qui est folklorique et qui est originaire de l'Europe de l'Est. Roumanie, Hongrie, tous ces pays-là. Et effectivement, dans ces pays, on croyait ou on était témoin de choses étranges. C'est-à-dire que dans les villages, de temps en temps, il y avait des épidémies étranges, des gens qui mouraient, ils étaient vidés de leur sang. Et l'on pensait que les auteurs de ces maladies, en quelque sorte, ce n'étaient pas des virus, ce n'étaient pas des maladies comme les autres. Il s'agissait de non-morts. Pourquoi non-morts ? Parce qu'ils étaient mal morts. Ils étaient morts avec une revanche à prendre, avec des vengeances à accomplir. Et donc, ils se réveillaient de leur tombe. Ils venaient nuitamment pour sucer le sang, généralement, de membres de leur famille. Donc, le vampirisme, au départ, c'est une histoire de famille. Et on les découvrait en allant, évidemment, déterrer les morts, ouvrir les tombes. Et on s'apercevait que dans certaines tombes, il y avait... Alors c'est très différent du vampire qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agissait de morts qui étaient bien portants, bien rougeaux, avec du sang qui coulait de leurs lèvres, qui était bien rouge, et effectivement on voyait à cela qu'ils étaient vampires, et puis là, s'ensuit ce qu'on connaît, c'est-à-dire le pieu, décapitation, brûler et répandre les cendres, voilà. Donc, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des témoignages écrits provenant de témoins de, par exemple, Louis XIV avait envoyé donc des militaires pour faire le point sur ces témoignages. Et donc, on a des textes historiques qui témoignent effectivement de ces cas de vampirisme étranges qu'on voyait donc en Europe de l'Est, mais également en Grèce. Et en Grèce, on les appelle les broucolaques. Donc voilà. Donc ça, c'est le vampirisme, je dirais, folklorique. Et la grande césure, et c'est là où va intervenir mon ami Alain Puzolis, sur, ça a été Bram Stoker. Bram Stoker, il faut savoir, bon, je laisserai Alain en parler, mais c'était un initié de la Golden Dawn qui était au courant de différentes choses assez ésotériques sur le vampirisme. Il a écrit ce roman maître qui s'appelle Dracula. Et Dracula était donc un grand succès. Dracula, c'est 1897. Et Dracula a instauré la figure moderne du vampire, c'est-à-dire ce n'est plus un vampire venant de villages un petit peu étranges, un petit peu lointains, vampire paysan en quelque sorte, mais il s'agissait du vampire noble, c'est le comte Dracula. Et ça a initié d'une certaine façon une littérature, mais surtout le cinéma, à travers tout le XXe siècle, à travers cette figure du vampire, mais vampire, je dirais, prédateur, noble, se réveillant la nuit, pâle et non plus rougeau, avec un côté justement un petit peu ambigu entre lui et ses proies. Et on a eu cette figure du vampirisme jusqu'à un second, je dirais pour moi, grande mutation du vampire, c'est le film de Coppola, Dracula, qui rajoute à cette figure du vampire noble et prédateur, un petit peu le rebelle, un petit peu le non-mort, qui se venge d'une certaine façon de la société, avec un vampire qui est amoureux et qui, en fait, instaure une histoire d'amour éternelle à travers le temps avec Mina Harker. Et la dernière mutation, on la connaît aujourd'hui, c'est la Bitlice, c'est-à-dire c'est le vampire qui non seulement est, je dirais, noble, ou en tout cas dans une classe aisée de la société, qui est rebelle, qui est amoureux, mais qui en plus ne consomme pas la sexualité, qui est végétarien, voilà, et donc et qui ne consomme pas l'amour avant le mariage, et donc c'est la version mormone du vampirisme. Donc ce qui montre que ce thème du vampirisme se prête à toutes les évolutions de la société. Ça, c'est intéressant. Et ici, autour de la table, nous avons justement, à travers les auteurs, des visions qui sont différentes, toutes originales, mais qui sont cohérentes avec le vampirisme. Donc, Alain Poggioli, avec la Bible Dracula, qui est vraiment le livre par excellence qu'il faut posséder quand on veut s'intéresser, quand on s'intéresse au vampirisme, parce qu'il y a tout, non seulement sur la mythologie, sur la littérature, mais aussi sur le cinéma. Donc, c'est vraiment la Bible comme son titre l'indique. Donc, ma voisine, donc ici, Licam, qui a écrit un roman, mais qui s'inspire justement du vampirisme, je dirais, de Bram Stoker, de ce thème de Dracula.
C'est d'abord plus le mythe roumain. Je me suis inspirée du Strigoï roumain, que j'ai adapté, on va dire, à notre société, mais plus principalement, c'est un vampire vivant.
Oui. Mais de toute façon, je vous redonne la parole. Donc, en fait, une variation romanesque sur justement un élément donc roumain, donc folklorique en quelque sorte au départ, du vampirisme. Donc, mon voisin, donc qui a écrit Les Vestiges de l'Aube, donc David Carra, qui lui a fait un roman qui est complètement urbain et contemporain, mais à la façon d'un thriller. Et que ça se passe, donc c'est à New York, hein, c'est ça.
Ça se passe à New
Donc
York.
ça se passe à New York. Donc on est dans une vision urbaine, contemporaine, thriller, très à l'arrache sur le vampirisme. Et enfin, Eric Holstein, qui a écrit aussi un roman, mais qui lui se passe à Paris, avec le Paris mystérieux. Donc en fait, on a deux visions urbaines, une vision, on va dire, roumaine, enfin donc un petit peu plus lointaine, et une référence. Puis, en annexe, bon, là, un texte retrouvé, c'est-à-dire le fameux chasseur de vampires de Dracula, Abraham Van Helsing, qui aurait laissé ce fameux traité de vampirologie que j'ai préfacé, annoté et donc publié. Alors j'aimerais donner la parole d'abord à Alain, puisque c'est lui le grand spécialiste de Stoker, pour qu'il nous dise un petit peu comment justement Bram Stoker, à partir de une légende en quelque sorte, une légende qui n'était pas très connue à part dans les régions où on y croyait, on a fait ce mythe moderne, et c'est un des rares mythes modernes, avec peut-être loup-garou, mais c'est surtout ce vampire moderne qui a été instauré par Bram Stoker. Alain.
Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que Bram Stoker a posé tous les codes du vampirisme qui ont été repris par la suite avec son personnage de Dracula. Et ce qui explique un petit peu le personnage et le succès du personnage, c'est que finalement, le vampire est de toutes les époques. Chaque période a eu ses vampires. Et moi, pour moi, si vous voulez, le rejet du vampire, c'est quelque chose que je trouve très symbolique. C'est que le vampire, c'est toujours par rapport à la société dominante, le marginal, l'être qui peut être dangereux parce qu'il n'a pas les mêmes codes, parce qu'il n'arrive pas du même pays, parce qu'il arrive avec sa propre force, avec sa propre histoire, et qu'il a un pouvoir de contamination parce que justement il est différent. Et c'est peut-être, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle le vampire, on l'appelle un non-mort, parce que c'est une mort symbolique aussi. La société victorienne, à l'époque où Stoker a écrit Dracula, était une société très refermée sur elle-même, très autoritaire. Et le personnage du vampire, le personnage de Dracula, c'est quelqu'un qui arrive et qui porte la menace sur cette société. Et c'est une raison pour laquelle il n'est pas reconnu. Le personnage de Dracula n'a pas d'ombre. Il n'existe pas. Il n'est pas reconnu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un non-mort. Parce qu'en fait, il n'est pas mort. Il a son existence. Mais pour la société officielle, il n'existe pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un personnage intéressant et qui perdure dans le temps, parce que dans toutes les époques, il y a des êtres et des personnages qui sont en marge, qui n'ont pas d'existence officielle, à qui on n'accorde pas d'existence officielle et qu'on relègue complètement sur le bas-côté. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le mythe du vampire est un mythe qui interpelle beaucoup les adolescents, parce que les adolescents, c'est vrai que dans la vie courante, n'ont pas d'existence propre. Ils sont dépendants de plein de choses, de plein de contingences, de plein de gens. Et le vampire, c'est un peu la même chose. Le vampire doit se débrouiller tout seul. Il a ses codes à lui et on ne les accepte pas. Et je pense que c'est la grande force du personnage et du mythe, c'est que c'est récurrent de génération en génération. Pour prendre mon exemple, moi j'ai découvert Dracula quand j'avais 14 ans, donc c'est vraiment le moment où on découvre plein de choses. Et j'ai été très étonné la semaine dernière, j'ai navigué un petit peu sur le net et je suis tombé sur un site qui présentait justement le personnage de Dracula. C'était un blog en fait. Et il y a un gamin de 12-13 ans qui a répondu à ce blog en disant « Moi je lis jamais, mais j'ai vu le résumé du roman et je trouve ça génial et ça m'a donné envie de lire et je l'ai lu et j'ai trouvé ça fabuleux. » Et donc, ça m'a renforcé dans mon idée que vraiment, vampirisme, c'est vraiment un écho évident à tout ce qui est marginal, à tout ce qui n'est pas encore en pleine lumière. Et c'est pour ça que ça a une telle force, parce que ça concerne tout le monde, en fait. Il y a toujours un moment, il y a toujours quelque chose dans la vie, des événements qui font que vous n'êtes pas dans la tradition, dans ce qui est bien pensant, bien faisant. Et je crois que le phénomène du vampire, il est là. Et donc pour en revenir à Stoker s'est évidemment inspiré de plein de choses déjà existantes. Il y avait eu d'autres histoires de vampires avant Stoker. Il y avait eu Sheridan Le Fanu qui avait écrit Carmilla une trentaine d'années avant. Roman que Stoker avait découvert et qui l'avait vraiment passionné. Et c'est vrai que quand on lit les deux, on sent bien qu'il y a une influence. Mais Stoker, si vous voulez, il a vraiment, ce que je disais tout à l'heure, il a posé les codes définitifs du vampire tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui, malgré Twilight et tous les nouveaux films. C'est que la figure charismatique du vampire, ce sera toujours Dracula. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'envolée, si vous voulez, vers la célébrité de Dracula, c'est faite par le théâtre. Parce que, en fait, ça aussi, c'est une chose que tout le monde ne sait pas. L'attribut principal de Dracula, du vampire, mais de Dracula en particulier, c'est la cape. Or, dans le roman, Stoker n'en parle pas. Et c'est la toute première adaptation au théâtre de Dracula, qui était le fait d'un comédien qui s'appelait Milton Dean. Et Milton Dean est un comédien qui avait fait partie de la troupe du Lyceum Theatre, dont Stoker était l'administrateur. Et c'est même Stoker qui l'avait embauché comme comédien dans la troupe. Et quand le livre est sorti, Milton Dean, il avait à peu près une vingtaine d'années, il a été complètement subjugué par le livre et il a gardé en tête pendant 10 ans, même pendant 15 ans, l'envie et l'idée d'adapter Dracula au théâtre. Et il a dû attendre que Stoker soit mort parce qu'il il a pas eu l'audace de lui faire la proposition, il n'osait pas. Et après la mort de Stoker, en 1924, il a été voir sa veuve, Florence, et il lui a demandé l'autorisation d'adapter Dracula au théâtre. Donc Dracula a été adapté au théâtre. C'est lui donc qui a eu l'idée de l'affubler d'une cape. Et partant de là, la première donc adaptation théâtrale a été jouée à Londres. Elle est partie en tournée en Angleterre. Et au cours d'une deuxième série de représentations à Londres, elle a été vue par un scénariste d'Hollywood, qui s'appelait Horace Lovelight, je crois. Je ne suis pas sûr du nom, il ne me revient pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que grâce à ce personnage, Dracula a traversé l'Atlantique. Il a été monté à Broadway avec Bela Lugosi dans le rôle de Dracula. Et c'est à partir de ce moment-là que le cinéma s'y est intéressé, puisque la pièce a eu un succès considérable. Elle a tourné pendant 2 ans dans les États-Unis. Et c'est là que l'Universal a eu l'idée de faire le film. Et de là, le mythe est né. Voilà.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis sur l'ombre, le fait qu'il n'ait pas d'ombre, le vampire, enfin Dracula n'a pas d'ombre. En même temps, c'est l'être de l'ombre par excellence. C'est-à-dire que l'ombre qui n'a plus, en fait, c'est comme si lui était lui-même sa propre ombre. Ça, c'est intéressant. Et tu parlais de société victorienne. Il y a un autre roman qui a aussi eu un grand succès, qui est de Stevenson, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et qui joue un peu sur ce thème du refoulé. C'est-à-dire que Dr. Jekyll, qui est le médecin, qui est dans la société, qui est totalement intégré, qui soigne son prochain, eh bien, il développe, après, avec ce fameux filtre magique qu'il invente, son double noir, son égrégore noir, son ombre en quelque sorte, qui est Mr. Hyde, qui lui se permet toutes les turpitudes et toutes les transgressions qui étaient interdites dans cette société. Et ce roman est resté aussi parce que justement, à l'époque, c'était la seule façon, le fantastique en quelque sorte, et c'était la seule façon d'extérioriser les pulsions inavouées de la société. Et encore aujourd'hui, preuve que ces pulsions inavouées sont toujours présentes, c'est qu'il y a une pérennité du mythe et qu'on reste dans une fascination des êtres qui osent vivre des choses qu'on ne vit pas, on n'ose pas vivre, heureusement d'ailleurs, dans la vie quotidienne. Sur la fascination, tu parlais de Bela Lugosi, qui est le premier grand Dracula du cinéma. On dit que dans sa villa d'Hollywood, il avait fait construire une villa qui était en fait un château, le château Dracula, un château des Carpates. Il faisait livrer tous les matins des toiles d'araignée fraîches pour orner donc sa villa. Et lui dormait dans un cercueil. Et je crois que d'ailleurs, à la fin, il est mort plus ou moins fou en se prenant lui-même pour Dracula.
En fait, je crois aussi qu'il y avait une question de contrat avec l'Universal qui l'avait plus ou moins obligé à ce genre de choses.
Ah, tu casses le...
Ah, bah, si, il faut quand même voir l'image. Les choses en face. Mais le problème, c'est qu'il était, il était vraiment sous la domination de la drogue et ça explique plein de choses aussi.
Ouais. Donc, l'ICAM... Alors, soit c'est la sirène qui nous annonce la guerre mondiale, soit c'est une animation imprévue, soit c'est un vampire qui a oublié de s'endormir. Voilà ce que donne le bruit des cercueils quand on le referme, quand on le voyait. Ça rappelle aussi le cri de la banshee, mais ça c'est une autre mythologie. Donc, l'ICAM, vous avez fait un roman qui s'appelle...
Ça fait plus Ed Wood quand même, ce qui vient de se passer.
Oui, qui s'appelle Les Majtou, et donc... Quel est le propos de ce roman et comment vous êtes passé de la légende roumaine à un roman qui s'adresse aux lecteurs d'aujourd'hui?
Alors moi, je suis partie du principe, en fait, je me suis... Ah oui, voilà. J'ai dit pardon, comme ça. Je suis partie du principe que la société d'aujourd'hui était prête à accueillir le vampire. Donc c'est pour ça que j'en ai fait, non pas un non-mort, mais un vampire vivant. Et je me suis interrogée, je suis biologiste à la base.
Parle plus près. Voilà. Carrément dans le...
Non, comme ça, d'accord. Je suis biologiste à la base et du coup je me suis quand même interrogée sur essayer de créer une espèce cohérente qui ait toutes les caractéristiques du vampire mais qu'on puisse expliquer biologiquement. Et ce qui était amusant de faire, c'est avec cette espèce la confronter à nous humains et voir les dynamiques que ça crée au niveau de peur, au niveau de la peur, de la moquerie, parce que c'est vrai qu'on est une société qui se moque beaucoup. Et le vampire, dans les Majtou, il est victime de moqueries, de ségrégation, de toutes ces choses.
Et en quoi est-ce que la légende ancienne peut être transposée justement dans un roman qui est contemporain? En quoi est-ce qu'une mythologie qui remonte, on va dire...
En fait, ce qui m'intéressait, c'était le passé et les différents clans, Bathory, Dracula. Ça me donnait une base généalogique et du coup une base aussi en termes de biologie, ça me permettait de voir par rapport, par exemple, les Bathory, c'était une femme, on va dire le maître entre guillemets, elle était une femme, donc du coup il y a plus de femmes chez les Bathory et leurs caractéristiques sont complètement différentes. Chez les Dracul, c'est beaucoup plus par caste, il y a les Strigoi, il y a les Nosferat. Il y a les Nekurat, les demi-Strigoi, les Strigoi, les Voivoi Strigoi, parce que c'était un homme et c'est beaucoup plus organisé. C'est vraiment vouloir développer par le biais de la biologie différentes castes et montrer comment dans une société aussi bien organisée, un individu qui est transféré de la Roumanie à l'Angleterre peut essayer de s'intégrer. Voilà, c'était vraiment le propos.
Donc en fait, le mythe permet en fait des variations sur la biologie, sur la généalogie, sur des choses qui sont en fait très scientifiques et qui s'intègrent tout à fait à un mythe qui au départ n'a rien de scientifique et d'irrationnel.
Il n'a rien de scientifique. Il a des bases, on va dire, psychanalytiques.
Oui.
Après, c'est très loin de la génétique, mais en même temps, oui et non. C'est-à-dire qu'en base psychanalytique, il est quand même basé plus ou moins sur la psychopathie. c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, transgressif et que notre société ne veut pas, et sur une biochimie du cerveau quand même, c'est-à-dire un déficit de culpabilité, déficit de peur. Et mes personnages, ils sont effectivement à la fois génétiquement conditionnés, mais leur but, c'est d'essayer de se sortir de ce conditionnement génétique, voilà, et de s'intégrer.
Donc David Cara, est-ce que justement ce thème de la peur liée aux vampires, est-ce que ça vous a inspiré pour justement faire un thriller qui est dans un domaine qui n'est plus du tout, on n'est plus en Roumanie, on n'est plus au temps de Dracula, du comte Dracula, on est dans un domaine très urbain, très violent, et en quoi est-ce que justement ce thème peut s'adapter à un thriller contemporain ?
Alors justement, ça rejoint un peu la volonté de base dans Les Vestiges. L'idée originelle était justement non pas de moderniser le mythe, ça je ne me permettrai pas, soyons clairs, mais l'idée était de le rendre contemporain, c'est-à-dire de le transposer dans la société que nous on connaît, et donc avec les règles et les codes que nous on peut connaître. La modification principale que j'ai apportée au mythe du vampire, c'est et si le fait d'être un vampire n'était qu'un statut ? C'est-à-dire je garde ma personnalité, je garde mes codes moraux, mais je dois composer avec une modification de ce qui va me permettre de survivre. Là, je trouvais qu'il y avait, dans la confrontation avec notre époque, quelque chose d'intéressant. Après, peut-être un peu plus pervers, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'amener ça dans un thriller pour que, finalement, on amène un policier humain qui, lui, est confronté à des hommes qui tuent sans en avoir la nécessité, et dont le seul recours et finalement le seul ami va être quelqu'un qui tue par nécessité et qui lui en ressent une culpabilité. Donc j'ai plus travaillé sur un aspect sociétal du vampire que sur la complexité ou la base du mythe. Même si, très étonnamment, Werner, tel qu'il est traité dans Les Vestiges, est beaucoup plus proche des origines roumaines dont parlait Edouard tout à l'heure, car Les Vestiges est une série. Je ne dirais pas que je commence par la fin, mais presque. On trouve un Américain qui est devenu vampire pendant la guerre de Sécession. On le voit sortant d'une espèce de réclusion. On parlait tout à l'heure du côté inexistant, finalement, du vampire dans la société. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est un thème que j'ai traité, c'est « je n'existe plus ». Socialement, j'ai cessé d'être là. Et donc, pour réexister, ce vampire va se lier d'amitié en utilisant des moyens modernes, parce que je veux dire, c'est pas parce qu'on vient d'un mythe ancien qu'on peut pas imaginer qu'un vampire aujourd'hui, après tout, pourquoi pas, n'utiliserait pas Internet pour aller discuter avec des gens. Ça amène aussi des réflexions par rapport à notre propre monde, l'anonymat de l'écran, l'anonymat du clavier, la distance que l'on a. On a des outils de communication qui sont très puissants, et en même temps, on peut les utiliser sans s'impliquer dedans. Donc, pour un vampire, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Mais les origines de Werner, dont je traiterai à partir du tome 2, puisque c'est véritablement le nœud de l'aventure, sont, elles, complètement liées à l'origine du mythe. Et à la différence de romans qui traitent véritablement du mythe du vampire, là, le mythe du vampire est le nœud de l'histoire, c'est-à-dire comment même la déviation du mythe originel a une influence sur la vie d'un homme, le modifie, on fait effectivement un non-mort, un mort-vivant, et comment l'aventure s'est appliqué à lui pour qu'il ne soit même pas un véritable vampire tel que le mythe le décrit. Voilà. Et après, la notion de peur, elle se pose en chacun d'entre nous, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît parfaitement les gens avec qui on est amis ou les gens qu'on aime ? Est-ce qu'on n'a pas des découvertes à faire ? Et là, on peut se poser effectivement une question quand on découvre que quelqu'un pour qui on a des sentiments réels, profonds, est quelqu'un dont la survie passe par le meurtre. C'est aussi un des éléments dont j'ai voulu traiter.
Alors c'est vrai que ça peut passer par le meurtre, s'il s'agit d'un vampire prédateur comme on l'imagine, mais il y a aussi ce qu'on appelle les vampires psychiques, vous en connaissez tous, il s'agit de gens qui vous pompent, qui vous sucent tout simplement l'énergie. C'est-à-dire que vous êtes à côté d'eux, généralement ce sont des gens qui se plaignent beaucoup, qui vous parlent de leurs problèmes, et chacun en a, et qui, du coup, quand vous restez une heure avec eux, et vous êtes complètement vidé. Et en fait, ce sont des gens qui se nourrissent en quelque sorte de l'énergie des autres pour tout simplement exister. Et ça, ce sont des vampires qui existent. Peut-être qu'il y en a ici dans cette salle, qui se désignent. Non. Mais ces gens-là existent. Effectivement, on ne peut pas les mettre. On n'a pas de pieu psychique pour les accarteler. On peut pas les brûler. On peut pas les décapiter. Sinon, c'est nous qui allons en prison. Or, ils sont peut-être aussi dangereux, sinon plus, que les vampires tels qu'on les imagine. Eric Holstein. Donc, il s'agit aussi d'un roman, mais là, il ne se passe plus donc à New York. Il se passe à Paris. Et oui. Comment justement cette figure dont on a vu un peu tous les visages, cette figure du vampire peut s'accorder avec ce côté urbain que l'on connaît, que l'on côtoie pour nous qui vivons en région parisienne, qu'on connaît très bien. Et comment on peut imaginer que derrière peut-être une façade d'immeuble, derrière une porte un peu dérobée, il y a justement cette figure qui nous attend et qui peut-être va nous se précipiter sur nous.
Alors en fait, l'idée à la base, c'était de rendre des vampires crédibles, c'est-à-dire de les intégrer de manière crédible dans la société. Donc j'ai assez rapidement disqualifié le côté sanguinaire, puisque évidemment, une espèce qui vivrait depuis 400 ou 500 ans à Paris, en laissant des traînées de cadavres derrière eux, on les aurait remarqués. Donc moi, mes vampires sont des vampires psychiques. Plus exactement, en fait, ils se nourrissent de souvenirs. Ils ont une perception supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils détectent les auras des gens qui se matérialisent autour d'eux par des auras de couleur, et ils décident de leur voler des moments. Et en leur volant les moments, ils leur volent aussi le souvenir de la rencontre, qui leur permet d'être totalement invisibles. Reste ensuite le problème de l'immortalité, qui les contraint donc à vivre dans les interstices de la société. Donc en fait, tous les personnages du roman sont des marginaux. Donc voilà, le narrateur est un ancien cambrioleur qui est un ancien voyou des fortifs, qui parle en argot, qui est vraiment le milieu tel que décrit par des blondins, par des audiards, voilà. L'héroïne, c'est une poule de luxe qui en fait vit au crochet de gens riches. Il y a un personnage qui est un clochard, à qui on ne demande pas beaucoup de comptes non plus, mais c'est un vrai, voilà, le vieux Clodo à l'ancienne, avec le vieil Azor, le kilt de rouge et le clacos qui fouette dedans. Et il y a un videur dans une boîte une boîte pourrie à Pigalle, et qui vit dans des meublés. Et voilà. Ce sont des gens qui vivent dans les interstices de la société. Et tous ceux qui viennent à rencontrer plus tard vivent aussi dans les interstices. Alors des interstices parfois un peu moins chiches, mais voilà, ce sont des gens qui ont trouvé le moyen d'échapper plus ou moins au fichage.
Alors ce qui est intéressant, je trouve, puis s'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir, n'hésitez pas, c'est que très souvent dans ces histoires de vampires, le vampire lui-même n'est pas le personnage principal en fait. Ce qu'on voit dans Dracula, dans le livre de Stoker, c'est qu'on parle de lui, on évoque, on ne sait pas qui il est, et c'est progressivement qu'on apprend qu'il est un vampire, mais avant, il s'agit d'échanges de lettres. Et en fait, les personnages principaux ne sont pas Dracula. Et justement, le fait qu'il n'est pas le personnage principal lui donne une puissance. On a dit qu'il n'avait pas d'ombre, on a dit qu'il était sa propre ombre, mais en fait, il n'existe pas. Et c'est la peur qu'il sème, qu'il éveille chez les protagonistes, qui fait la force de l'histoire. Et j'ai l'impression que dans les différents approches romanesques qu'on a ici à cette table, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas le vampire lui-même. Le vampire est un élément.
Moi, c'est désolé, Edouard, c'est exactement l'inverse. Tout est raconté par le prisme du vampire.
Par le prisme du vampire.
Qui est
le personnage principal. Mais sinon, donc soit c'est le personnage principal, soit c'est celui qui est dans l'ombre qu'on ne voit pas, mais à travers lequel se révèlent à ce moment-là les autres personnages. Qu'est-ce que tu en penses, Eric ?
En fait. Je pense que tout à l'heure, quand tu évoquais les grandes balises littéraires, on a oublié Anne Rice quand même, qui a redéfini le mythe du vampire et qui surtout a amené le vampire à se confier. C'est-à-dire qu'elle en a fait un personnage assez auto-centré, alors avec une vision très romantique, très la vie c'est dur, la non-vie aussi. Mais elle a réellement modernisé l'approche du vampire. Elle a... Tout en prenant ce, l'aspect qu'avait fait effectivement Stoker, c'est-à-dire amener une figure folklorique au centre du monde, Anne Rice, en un seul bouquin, elle lui a fait rattraper 50 ans de retard. C'est-à-dire que en un seul bouquin, elle a dépoussiéré le vampire en habit de soirée et en cape, et elle l'a réancré dans le XXe siècle. Et depuis Entretien avec un vampire, je pense que c'est difficile d'avoir un roman sur les vampires qui ne soit pas raconté par le prisme du vampire. La grande force justement de Stoker, c'est que finalement, Dracula, c'est le grand absent du livre, à part dans la partie l'invité de Dracula où on le voit réellement, c'est le grand absent du livre. D'ailleurs, c'était Fred Saberhagen qui a fait un bouquin très drôle. La série est très très inégale, mais le premier, Les Confessions de Dracula, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est la réécriture de Dracula, enfin le roman de Stoker, mais écrite par Dracula, en disant qu'il est bien mignon, mais il parle de moi, mais personne s'inquiète de savoir ce que moi je dis.
Justement, moi, je trouve que c'est là la preuve du génie de Stoker. C'est le premier à avoir eu cette idée de faire un personnage qu'on ne voit jamais, dont tout le monde parle en permanence et qui n'intervient jamais lui-même. Et en fait, c'est la plus géniale définition de l'épouvante. L'épouvante, c'est ce qui est suggéré, c'est pas ce qui est montré. C'est comme au cinéma le hors-champ. C'est beaucoup, un hors-champ est beaucoup plus angoissant que ce qu'on voit parce que c'est notre propre imagination qui est en marche. Et tout est permis.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs de Dracula un véritable chef-d'œuvre, mais surtout un roman très moderne. Quoi,
L'écriture en soi est moderne.
L'écriture est très moderne.
C'est des journaux des protagonistes, c'est des extraits de presse, c'est des télégrammes, des choses qu'on n'avait jamais utilisées auparavant.
Un enregistrement sur cire, c'est le top du top de la technologie à l'époque. Enfin, c'est un roman excessivement moderne. Alors qu'il y a longtemps été servi par une traduction pas terrible, mais il y en a une des deux qui est vraiment bien, je ne me souviens plus laquelle.
Lucienne Molitor qui en a fait une bonne.
Voilà, ouais. Et qui est... c'est vraiment un excellent roman.
Et moi, ce que je voulais dire, je crois qu'il y a deux choses qui sont vraiment très différentes. Il y a le personnage de Dracula d'un côté et le vampire de l'autre. Dracula, pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul, il est vraiment focalisé dans le 19e siècle. Il fonctionne avec ses codes dans le 19e, et ne serait-ce qu'au cinéma, toutes les adaptations qu'on a voulu faire modernes ont été ratées. Alors que le mythe du vampire moderne qui n'évoque pas Dracula fonctionne. Ça, c'est très étonnant.
Dracula, en fait, il est intéressant aussi parce que c'est une sédimentation des deux autres grands romans qui sont arrivés avant lui, c'est-à-dire le Camilla de Sheridan Le Fanu et le Vampire de Polidori qui a un roman assez exécrable, c'est super mal écrit, mais c'est le premier à prendre la figure folklorique et à l'amener dans le monde moderne. C'est un aristocrate, il fait le tour du monde. Alors, il n'a pas du tout les mêmes limitations en plus, il est diurne, comme Camilla d'ailleurs, mais Stoker a parfaitement synthétisé tout ce qu'il y avait à prendre dans les deux, la dimension aristocratique du vampire de Polidori et la dimension ultra transgressive du personnage de Le Fanu, et il a synthétisé en un seul personnage.
En fait, ce qu'on peut dire sur Dracula, enfin le roman, c'est que c'est un roman qui cristallise toute l'ère victorienne. Il est vraiment symbolique tout à fait de tous les aspects de cette société, et en plus c'est le dernier roman gothique. Après Dracula, on passe à autre chose.
Et en fait, c'est ça, il est la transgression ultime. Et comme c'est un personnage transgressif, c'est effectivement, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'aspect transgressif du personnage du vampire qui explique en grande partie sa fascination. Et que ce soit la transgression sexuelle, que ce soit la transgression qu'amène la vie à la marge. Dans mon cas, les personnages sont des voleurs, sont des menteurs, sont des... Ils font leur mode de survie, en fait, c'est la transgression. Et ils n'ont pas le choix, de toute manière.
Et il y a aussi l'idée de contamination. Au 19e, la grande maladie de l'époque, c'était la syphilis, comme aujourd'hui, c'est le sida. Et ça, c'est vraiment une symbolique très importante aussi.
Non, c'est vrai.
Je voudrais revenir sur le vampire de Polidori, parce que là aussi, c'est une histoire qui est assez étrange. Elle vient, vous savez, de cette fameuse soirée qui a été passé, c'était au bord de quel lac, c'était le lac Clément. Et il y avait donc un groupe d'amis, il y avait Lord Byron, il y avait son médecin personnel qui était Polidori, et il y avait Marie Shelley. Et un soir, donc, ils ont décidé de se lancer un défi, c'est-à-dire d'écrire chacun un roman fantastique. Et alors on sait que Marie Shelley a écrit Frankenstein, qui a eu le succès que l'on connaît, et Polidori a écrit ce roman sur le vampire qui effectivement n'est pas très bon et qui a longtemps été attribué à Lord Byron lui-même. On croyait que c'était le vampire de Lord Byron. En fait, on a appris que c'était Polidori. Et en fait, c'est intéressant parce que, en fait, sur un espèce de défi lancé comme ça dans une soirée entre amis, peut-être après boire, il y a deux grandes figures quand même fantastiques modernes qui sont sorties de ce défi. C'est d'une part la figure du vampire, de l'autre celle du monstre Frankenstein, parce qu'on dit souvent Frankenstein en faisant une confusion entre le docteur Frankenstein et sa créature. Et peut-être que justement le Frankenstein, alors je ne sais pas si notre ami Jean-Luc Rivera est dans l'appareil, c'est peut-être aussi l'un des premiers romans de science-fiction, puisque c'est une façon de, et c'est aussi le mythe du golem en quelque sorte, c'est en fait une créature qui faite à partir de cadavres assemblés ensemble. On lui insuffle la vie et elle devient une créature, donc une espèce de... Ah, voilà. Une espèce de créature comme ça qui est censée être au service de son créateur. En fait, ça lui échappe, un peu comme dans le mythe du golem. Et elle devient un monstre qu'il faut détruire. Et là aussi, il y a une pérennité, alors moins importante peut-être que celle de Dracula, à travers le cinéma, avec les différents films avec Boris Karloff sur Frankenstein. Alors la question que j'aimerais poser à Alain, c'est, et puis à vous tous, c'est... Est-ce que cette figure du vampire dont on a vu un peu l'évolution jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut continuer? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à dire sur le vampire? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour aujourd'hui et qu'elle va disparaître? Ça, c'est une question que je me pose, moi, personnellement.
Bah, moi, personnellement, je pense que ça ne finira jamais. Le vampire est récurrent à l'infini. La preuve, c'est que, disons, ces 50 dernières années, on a toujours eu à un moment l'impression que le mythe s'essoufflait. Et puis, tout d'un coup... Comme par magie, il y a un grand film qui sort, il y a un roman plus important que les autres qui redonne du sang neuf, c'est le cas de le dire, au phénomène et au mythe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un mythe qui concerne tout le monde et de génération en génération, on y retrouve tous quelque chose, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et l'exemple, c'est le succès de Twilight, même si c'est light, justement, ça prouve bien que le mythe fonctionne à l'infini.
Est-ce que, par exemple, pour vous, est-ce que vous allez faire une suite, justement de...
Oui, il y a une suite de prévues. Je voulais revenir sur Twilight, parce qu'on parle souvent du symbole transgressif du vampire. Et je trouve que notre société, aujourd'hui, la marche, c'est peut-être bien, finalement, ce qui est décrit dans Twilight. C'est-à-dire, finalement, les mormons. C'est-à-dire que peut-être que... Moi, dans les Mach 2, il est transgressif et il essaye de s'intégrer, mais il est très transgressif. Et du coup, il se serre, mais c'est une souffrance. Alors que dans Twilight, on a l'impression que ça se fait tout simplement. Et je me demande si c'est pas finalement notre société qui permet beaucoup de choses, le vampire, et du coup, il se retrouve lui aussi serré, de plus en plus serré dans un recoin où il s'autorise plus rien, quoi. Et moi, je voulais justement montrer, par rapport à Twilight, que notre société pouvait encore permettre la transgression, pouvait encore permettre...
Oui, parce que c'est un peu le paradoxe effectivement de Twilight, c'est que ce vampire qui, comme on l'a vu, c'est plutôt un rebelle, c'est quelqu'un qui est rejeté par la société et qui vient dans l'ombre, qui se permet des choses que on se permet pas. Et là, on a un vampire qui à l'inverse, enfin dans la vision qui est donnée, c'est un vampire qui est effectivement très dans une tradition, comment dirais-je, un peu puritaine.
Très puritaine. Oui.
Très puritaine. Et donc c'est comme si c'est comme si la tradition puritaine qui avait fait naître l'image du vampire, le récupérer finalement en faisant un vampire puritain. Alors est-ce qu'on peut, une fois qu'il a bouclé la boucle, est-ce qu'on peut sortir de ça puis lui redonner une autre forme de liberté, David?
En fait, le vampire dans Twilight, c'est il est vampire comme d'autres customisent des voitures ou font du tuning, quoi. Enfin, c'est le vampire next door. Ça, en fait, c'est un énorme phénomène éditorial au point de vue du personnage du vampire. C'est pas
un vampire.
Non, c'est pas vraiment un très très significatif. Par contre, l'approche Calicam d'un d'un point de vue biologique, c'est aussi ce qu'on retrouve dans un bouquin comme Vision aveugle, par exemple, qui est pourtant un bouquin, voilà, un space opéra pur et dur, très complexe, très ardu, très pointu, où le capitaine du vaisseau qui est dans une mission scientifique, enfin voilà, c'est vraiment du space op dur, est un vampire génétique, une race totalement, voilà, une sous-espèce humaine qui a été créée à dessein. C'est une vision transhumaniste du vampire. Et voilà, le vampire est aussi présent dans la science-fiction depuis longtemps avec Chamblot, avec donc je pense qu'il y a la figure du vampire va continuer, c'est la transgression.
Il y a aussi un roman qui est très intéressant sur ce thème-là, c'est Je suis une légende de Richard Madson, où en fait on arrive à un monde où en fait il y a plus d'humains du tout, parce qu'en fait voilà, c'est des vampires qui ont pris le pouvoir en quelque sorte. Et ça recoupe peut-être aussi le mythe des E.T., des extraterrestres, quoi, un peu cette dimension de ils sont parmi nous, on les voit pas, il y a peut-être des signes par lesquels ils vont se révéler, mais en fait ceux qui vont nous dévorer sont déjà là, ils sont peut-être déjà au pouvoir, et en fait voilà, nous sommes le gibier.
Ouais, sauf que dans les grands archétypes de personnages, le vampire incarne réellement la transgression. L'E.T., c'est l'extraterrestre, c'est la paranoïa, c'est l'autre, c'est la grande figure de la transgression reste le vampire. Il y a toujours ce côté, voilà, ça sent un peu le soufre et le foutre, quoi.
Oui, on reparlait de Twilight tout à l'heure. Pour rebondir sur ce que disaient Alain et Ellie, oui, le vampire va à mon avis être là longtemps, et quels que soient les outrages qu'on lui fasse subir. Voilà, on aime ou on n'aime pas Twilight, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais si on regarde ce qu'est le vampire depuis, et je vais rebondir aussi sur ce que disait Eric par rapport à Anne Rice, parce que ça a été aussi, moi, ma première découverte du vampire, bien avant Dracula d'ailleurs, à l'adolescence, ça a été Lestat le vampire. Mais d'avoir un vampire qui représente normalement l'héros et le Thanatos, on est sur une fascination qui est la fascination à la fois de l'amour et la fascination de la mort, qui sont quand même deux énormes problématiques globales de l'humanité. Et d'arriver à ce qu'on voit aujourd'hui dans Twilight, je ne vais pas me lancer dans la théorie du complot, mais j'en arrive presque à me demander si quelqu'un n'a pas eu l'idée d'utiliser un mythe transgressif pour ramener tout le monde à un ordre un tout petit peu plus serré. Je ne crie pas à la théorie du complot, je ne dis pas que c'est vrai, je dis qu'on peut se poser la question. Mais le vampire, c'est aussi la part de monstruosité de l'être humain. Et à la différence du loup-garou, où la monstruosité est immédiatement visible, quand la transformation a lieu, le vampire, lui, cette monstruosité, il peut l'avoir, parmi nous, au cours d'une soirée, et la déclencher très brièvement, en gardant en plus le contrôle. Et ça reste quand même des questions qui nous renvoient à nous-mêmes. C'est pour ça que je ne vois pas la figure du vampire disparaître, parce que même par rapport à beaucoup d'autres monstres, ça reste un monstre humain. Ça reste quelqu'un dont l'apparence est la nôtre. Et pour rejoindre ce que disait Edouard, il pourrait effectivement être parmi nous, et on n'en saurait rien. Par contre, ce qui est absolument certain, ça n'engagera que moi en tant qu'auteur, c'est que je préférerais, à la limite, des vampires transgressifs et dangereux parmi nous, plutôt que des vampires comme Edward Cullen, tels qu'on les voit dans Twilight. Parce que effectivement, un des aspects qu'on oublie, à mon avis, un peu, c'est que derrière le mythe, on oublie la personnalité du vampire. Dans le cas de Werner von Lewinsky, dans Les Vestiges de l'Aube, ça n'est pas le vampire qui m'a fait écrire l'homme, c'est l'homme qui m'a appelé naturellement à en faire un vampire. Parce que déjà, humainement, on était sur quelqu'un qui ne manquait finalement plus qu'une paire de dents à serrer. Voilà. Et je pense vraiment que le vampire va continuer à évoluer, parce que notre société évolue, qu'elle évolue en plus très vite, qu'on a tous un seuil de compréhension de l'évolution et d'acceptation de cette évolution, et que le vampire, avec cette figure aussi un peu passéiste, nous rappelle quelque part des origines et des racines, et que c'est un élément qui, à mon avis, plaide en faveur du personnage.
Est-ce que parmi vous, qui parmi vous a lu Twilight? Et qui a aimé? Ouais, c'est le droit, hein. Et qui parmi vous a lu Dracula de Bram Stoker? Ah, donc voilà, il y a quand même une grosse majorité, donc voilà. Donc, on arrive à peu près à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Oui. Les jeux de rôle, oui.
Alors oui, clairement. Oui.
Alors, oui,
pour répondre à la question, j'ai connu un jeu de rôle il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Vampire la Masquerade, voilà, dont je me suis clairement inspiré d'un élément, c'est plus le vampire utilise ses pouvoirs, plus sa soif de sang est grande. C'était moins le côté piquer une idée dans un jeu de rôle que j'avais pu pratiquer il y a 25 ans et profitez-en parce que je l'admettrai plus jamais. C'est que globalement cette espèce de punition de se dire mon pouvoir a un prix, ma supériorité a un prix et ce prix c'est la vie humaine. Et si je suis doté de conscience et doté d'une âme et que prendre une vie me pose problème, utiliser mes pouvoirs me pose problème. Là, ça a été clairement effectivement inspiré de ce que vous avez évoqué.
Moi aussi, je me suis beaucoup inspirée des jeux de rôle pour les différentes cases de Strige. Je me suis inspirée de jeux de rôle, c'est-à-dire que j'ai fait les personnages comme on fait un personnage dans un jeu de rôle. Les castes, les Nosferatu sont comme ci, les Kurats sont comme ci. Voilà, chacun ses caractéristiques et c'est parce que je suis une ancienne grosse joueuse de jeux de rôle. Voilà.
Et moi, donc, même si mes personnages sont très très différent, il y a voilà, à l'origine de la vocation d'écriture, il y a précisément les jeux de la gamme White Wolf, c'est-à-dire qui était arrivé à un niveau de complexité d'univers qui était tel qu'à un moment donné, en écrivant les scénarios, on se dit c'est quand même dommage de les laisser saloper par ces comptes joueurs, donc autant en faire une histoire, quoi.
Nous, on n'est pas joueur de jeux de rôle avec Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors j'espère que cette table ronde vous a peut-être révélé d'autres petites parties un petit peu plus secrètes, mystérieuses sur le monde des vampires, qui est très vaste, comme vous l'avez vu, qui était inépuisable. Eh bien, je vous souhaite de faire d'autres découvertes littéraires à travers le monde des vampires. Et puis, donc, je remercie à nouveau à tous d'être venus nous écouter. Merci pour vos oreilles.